Bienvenue dans Une Heure en Série, saison 1, épisode 5, un épisode 100% démocratique, ou tant que faire se peut en tout cas, où nos chroniqueurs et chroniqueuses seront appelés à se prononcer pour ou contre un délégué du corps étudiant dans Politician sur Netflix, une dictatrice dans Zérostérone sur TV Slash, un président de la République issu de l'immigration dans Les Sauvages sur Canal+, et une tête couronnée dans Downton Abbey, le film événementiel, puisqu'exceptionnellement, nous sacrifierons nos deux chroniques, La Pépite Inédite et L'Effet Miroir, pour nous intéresser à la sortie du film issu de la célèbre série éponyme.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Et bienvenue aux baronnettes et baronnets de la critique de séries télé qui sont autour de cette table aujourd'hui. Marjolaine Boutet, toujours historienne évidemment des séries couronnées bien évidemment. Vous travaillez pour le magazine Phosphore et vous êtes autrice, je le rappelle à chaque fois, mais parce que c'est un excellent livre, d'un ouvrage sur le village français sorti aux éditions de la Martinière. Marie Sauvion, tête couronnée s'il en est bien évidemment, vous portez fort bien la couronne.
Bonsoir Monsieur le Président.
J'aimerais bien voilà un tout petit peu de respect. Et vous travaillez toujours pour Le Cercle présenté par Augustin Trapenard sur Canal+, en clair.
Toujours.
Et notre petit baronnet, bah, c'est Benoît Lagan, bien évidemment, notre compteur cathodique que vous retrouvez tous les vendredis matins à 5h53 pour la chronique fin de série dans le 5-7 de Mathilde Munoz. Les urnes sont ouvertes, vous allez y glisser vos petits bulletins de vote. Et nous commençons tout de suite par The Politician, la nouvelle série sur Netflix, 8 épisodes en ligne depuis le vendredi 27 septembre. Alors c'est l'histoire de Peyton qui est un fils à papa bisexuel, fort imbu de lui-même et ambitieux à l'extrême, jusque-là le portrait est assez juste, vous nous direz. En tout cas, il n'a qu'un seul rêve, alors qu'il n'est encore que lycéen, devenir président des États-Unis. Mais pour cela, il doit d'abord se faire élire à la tête justement du lycée qu'il fréquente. Une simple formalité, pense-t-il, mais rien ne va se dérouler évidemment comme il l'espérait. Trahison, coup bas, alliance rompue, Peyton est prêt à tout pour assouvir son désir de puissance.
C'est précisément pour ça que je veux être président.
Mesdames et messieurs, voici votre prochaine vice-présidente, Infinity Jackson.
Elle a déjà un taux d'approbation de 80.
Et un compte de fans sur Instagram.
Apparemment, il y a une cassette sur laquelle on te voit proférer une insulte envers les gays. Tu as une idée de ce à quoi je fais référence?
Est-ce que tu as vu l'heure qu'il est?
Vous, fermez-la, je suis pas d'humeur pour vos conneries. Qu'est-ce que tu dis dans la vidéo?
Elle a dit pauvre fiotte.
Elle a traité un journaliste ouvertement gay de pauvre fiotte.
Putain de merde! Ça y est, c'est terminé!
Vous savez, je vais devenir président des États-Unis. J'énonce simplement un fait, je deviendrai président un jour.
Tu préviens, déconne pas avec mon rêve.
Ton ambition me fait très peur.
Je n'arrive pas à y croire.
Que je suis une connasse avec un cœur de pierre et de la glace dans les veines?
I want that trophy.
Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre en quoi le fait d'avoir traité cet homosexuel de pauvre fiotte puisse provoquer un tel scandale. C'est fou. Enfin quoi, c'est pas une insulte.
Non mais c'est vrai, chacun ses goûts.
I want that trophy.
Faut le faire assassiner. C'est trop.
Je suis prêt à tout pour gagner.
Je vous appelle pour dénoncer un crime.
Tu vas changer le monde, Peter.
I want that trophy.
Alors, The Politician, c'est la nouvelle série de Ryan Murphy et Brad Falchuk. C'est un peu le tandem en or de la télévision américaine. Je pense que vous le confirmerez tout à l'heure. On leur doit quelques énormes succès, gros cartons de la télévision récemment. Nip and Tuck, par exemple, ou Glee. Rien qu'à ce jour, 5 séries signées par ce tandem sont à l'antenne, American Horror Story, dont nous reparlerons la semaine prochaine, mais également American Crime Story, Feud, ou la génialissime Pose, dont la deuxième saison sera bientôt diffusée sur Canal. Évidemment, nous y reviendrons. La marque de fabrique de ce tandem, énormément de personnages LGBTQI+, je crois que je n'ai rien oublié.
C'est pas mal, c'est pas
ça
mal.
Ça sera long, quand même, de semaine en semaine. Des stars un peu oubliées, soyons honnêtes, Jessica Lange, qu'on a entendu dans sa version française il y a quelques instants, Bette Midler, qui est absolument géniale dans la série, également Gwyneth Paltrow, parce que oui, Gwyneth Paltrow est une star oubliée. Faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, hein. Personne ne sait plus qui elle est. Des références explicites et gourmandes au 7e art. Et puis, dans les thèmes régulièrement abordés, les affres de l'adolescence, le devenir soi-même, comment est-ce qu'on se révèle, comment est-ce qu'on se concrétise, l'envers du rêve américain. Enfin, voilà des thèmes qu'ils ont toujours travaillés. Ce sont des ingrédients qui sont encore présents dans The Politician, une fois de plus, une fois encore. Et vous entendez au son de ma voix que j'ai presque envie de rajouter peut-être une fois de trop.
Mais ah là 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 là, ça commence mal.
Que bien sûr, je me trompe. Et ben Marie Sauvion, voilà. Allez-y, jouez la voix de la discorde.
Alors, c'est pas une fois de trop parce que, alors, voilà, c'est un tandem qui fait toujours des satires de l'Amérique. Et alors, celle-ci, c'est une sorte de rencontre assez improbable entre Gossip Girl et House of Cards. Voilà. Donc, c'est tout à coup une course présidentielle complètement folle qui commencerait au lycée, avec des gamins qui ont leurs conseillers occultes, leurs stratégies, les sondages, où tout à coup, voilà, ils passent leur temps à faire des statistiques, des projections. Il faut absolument sonder le vote haïtien au lycée, sachant qu'il y a un gars haïtien qui s'appelle Pierre et qui devient voilà le gag récurrent de la série. Alors évidemment, c'est un peu troublant au début de se retrouver dans cet univers de milliardaires de Santa Barbara où j'ai eu un petit pincement au cœur, je vous le cache pas, en voyant que leur écurie était mieux décorée que mon appart. Et donc j'ai trouvé ça un peu raide. Mais ce qui se cache derrière tout ça, évidemment, c'est une satire assez piquante, notamment de la reproduction des élites. Il est beaucoup question de Harvard. Et là, la question est posée clairement, c'est-à-dire est-ce qu'on achète sa place à Harvard en faisant construire une bibliothèque ou est-ce qu'on essaye de réussir au mérite et d'avoir un CV impeccable pour devenir président des États-Unis et faire le parcours parfait. Tout ça est absolument invraisemblable, très rigolo, matinée de soap, d'empoisonnement, de suicide, de trahison, de coucherie, tout le monde est bi, tout le monde se ment, se trompe, etc.
C'est un monde rêvé que vous nous décrivez.
Mais
là,
c'est un monde un peu rêvé où quand on se suicide, par exemple, quand on se défenestre, eh ben, on le fait en sautant d'une commode 18e, acheter 6 millions de dollars chez Sotheby's. Je trouve que ça a de la gueule.
Ça a de la classe, on est bien d'accord. Pour autant, vous n'avez pas totalement répondu à ma question. On voit bien que l'intention satirique est là, vous l'avez très bien argumenté autour de ça, mais est-ce que le développement de la série est tout à fait à la hauteur de cette promesse? Et est-ce que le pont d'or tendu par Netflix à Ryan Murphy n'a pas un tout petit peu ébloui le jeune homme qui a rien oublié de travailler un peu son développement? Ne me regardez pas avec des gros yeux, on est à la radio, ça ne sert à rien, Marie. Mais je vois la main de Marjolaine qui semble tout à fait prête à me donner raison.
Absolument.
Non, merci moi, je Marjolaine, vous resterez la semaine prochaine.
Comme toujours chez Ryan Murphy, c'est trop. C'est too much et c'est voulu. Ce qui fait le point commun de tout ce que écrivent Ryan Murphy et Brad Falchuk, c'est l'obsession des apparences. Et là, ce qui est extrêmement intéressant dans cette série, c'est les apparences à l'ère des réseaux sociaux et effectivement ce jeune homme qui construit déjà sa future campagne pour la présidence dans 40 ans, dès aujourd'hui, avec cette obsession de tout contrôler et en particulier les apparences. Et je trouve que ça, c'est effectivement intéressant. Après, oui, c'est too much. Oui, ça part dans tous les sens. Mais ce qui fait le plaisir...
Il y a des intrigues secondaires qui sont un peu là en trop.
Mais bien sûr. Mais elles sont là pour servir les acteurs. Et je trouve que aussi ce que fait Ryan Murphy, et notamment avec Jessica Lange, qui est sa muse, elle est toujours extrêmement bien servie.
Elle avait récupéré dans American Horror Story les premières saisons.
Et il y a cette volonté vraiment de servir les acteurs, et en particulier les actrices. Jessica Lange et Gwyneth Paltrow, elles s'éclatent tellement que... On s'en fout que ça n'ait pas de sens, finalement. Ben Platt aussi, qui est une star de Broadway, qui était habitué au rôle de gentil garçon, un peu maladroit, un peu romantique. Là, il peut donner vraiment toute sa dimension d'acteur. Et puis, il y a une représentation, effectivement, des LGBTQI+, particulièrement intéressante, et notamment des acteurs transsexuels. Et je voudrais saluer la performance donc, de Théo Germaine dans le rôle de James, qui est un acteur transsexuel et qui joue le rôle d'un garçon tout à fait cisgenre dans la série.
J'étais un peu méchant, le dernier épisode, en revanche, qui relance l'hypothèse d'une saison 2 assez prometteuse à New York. Donne terriblement envie, on est d'accord. Alors, Peyton a été inspiré par Benoît Lagan, tout le monde le sait, fils à papa, le choisi, bisexuel, un peu de lui-même.
Bien évidemment.
Bon, voilà.
Bien évidemment.
Donc vous êtes le mieux placé, j'allais dire, ce soir à cette table pour nous parler de cette série.
Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Marie.
Champagne!
Voilà. Donc pas du tout d'accord avec ce que vous dites sur la série de trop. Pour moi, c'est pas la série de trop de Ryan Murphy. Ryan Murphy est suffisamment malin pour pouvoir s'adapter aux diffuseurs qui diffusent sa production. Quand il fait Glee, il parle à un public ado sur une chaîne gratuite. Quand il fait American Horror Story, il le fait pour un public plus pointu. Et chaque fois, il le fait toujours dans ce too much qu'on adore. Et moi, ce que je trouve malin, et là, il a très bien compris Netflix, c'est-à-dire qu'il se situe exactement entre la série gratuite, donc le plaisir qu'on pouvait avoir Glee, par exemple, ou Popular, sa première série, où il était déjà question du lycée et des apparences, et avec un petit plus où on sait qu'on est quand même sur une chaîne entre guillemets payante. Et puis Marjolaine citait Broadway avec le comédien principal. Il y a des moments musicaux comme toujours sublimes. La reprise de River.
Interminable.
Ah non, The magnifique River. River, donc de Johnny Mitchell. Moi qui m'a ému dès le premier épisode.
C'est sublime. Mais oui, sublime.
C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment du premier épisode.
Et c'est vraiment 10 minutes gratuitement payées.
Non, c'est des signatures.
Xavier Lepeur vient de dire du mal de Johnny Mitchell à l'antenne de France Inter.
Mais non, mais ça n'apporte rien à la dramaturgie.
Non,
on a entendu que
les gamins avaient non, c'est pas grave.
Il y a un personnage qui s'appelle River.
Il y a de l'émotion. Il y a
un truc in extenso. Là, c'est vraiment, on gagne du temps.
Non, c'est du plaisir.
Et puis, on retrouve le plaisir de, moi, je trouve, des séries aussi que pouvait faire David E. Kelly dans Ally McBeal, ou d'ailleurs il y a Dylan McDermott aussi qu'on a vu dans Ally McBeal The Practice. Bref, je trouve que c'est un vrai plaisir pour téléphiles qui retrouvent des clins d'œil. Et dernier point, moi je pense que s'il s'appelle Peyton, et si ça se passe à Santa Barbara, ça assume le soap. Peyton Place, Santa Barbara, moi j'ai vu le lien tout de suite.
Très belle conclusion, un peu de musique.
Je ne suis pas chez
de Lolo Zouaï, qui fait partie de la playlist de France Inter, une chanson très égocentrée, hein, vous l'aurez compris, en écho évidemment avec la personnalité de Peyton, dont vous avez parlé précédemment, une jeune artiste parisienne, mais qui a grandi à San Francisco, d'où l'utilisation brillante des deux langues, n'est-ce pas? Un peu comme Benoît, de glisser comme ça, avec
c'est
beaucoup
ça fait,
de diligence, comme ça, entre le français et l'anglais, et c'est extrait de son premier album, et c'est là où moi je vais me ridiculiser, I highs to low lows. Voilà. Je savais que je me risquais quand même et je me suis pris le mur. C'est pas grave.
France Inter. Une en série.
Je vous trouve très mauvais camarade. Allez, deuxième débat. Zéro stérone sur France TV / depuis le 13 septembre. Cet épisode de 15 minutes, ou à peu près en tout cas, l'ensemble du programme ne dure pas plus d'une heure et demie. C'est donc diffusé sur France TV / qui est la chaîne entièrement numérique du groupe France Télévisions. Connu évidemment pour le programme SCAM, France ou Belgique bien évidemment, qui est un carton, 4 saisons, 5 saisons en préparation. Cette série Zéro Stérone 100% féministe a été créée par Nadja Hanan et Eleonore Coste, qui interprète d'ailleurs le rôle principal. Il y a 100 ans, un virus a éradiqué tous les hommes de la Terre, il ne reste plus que des femmes. Le monde est donc devenu un gynécée, hélas, dictatorial. Faudra qu'on m'explique pourquoi à chaque fois que les femmes prennent le pouvoir, elles passent du côté de la dictature. C'est quand même très très récurrent dans ce genre de fiction. Mais bref, en tout cas, voilà ce gynécée sur lequel règne une impitoyable gouvernante, mère de toutes les femmes, et interprétée par la géniale Catherine Haussmalin. Lucie est accompagnée de sa sœur Charlie pour sa journée à la JAPP, la journée d'appel et de préparation à la procréation. L'unique chance dans la vie d'une femme d'être inséminée. Extrait de la bande annonce.
Bonjour.
Bonjour.
J'imagine que vous avez une réduction spéciale JAPP.
Vous passez votre JAPP? Félicitations. En plus, ça, c'est une super période. Comme on dit au mois de mai...
Fécondation assurée.
C'est tellement important dans la vie d'une femme, c'est fou.
C'est sûr que c'est le rêve de ma vie.
Vous aussi, vous passez votre JAPP?
Non, en fait, c'est seulement elle. Elle est en pleine ovulation.
Et la température basale, on est bien?
Elle augmente comme il faut.
La prise d'hormones, vous l'avez
fait? Oui, bon, bah ça va, quoi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler de mes ovaires et un temps pour commander un burger. Avec de la mayo, s'il vous plaît.
Tu sais, faut pas que ça te mette mal à l'aise qu'on parle de ça. Au contraire, tu devrais être fière. Donner la vie aujourd'hui, à notre époque, c'est quelque chose d'héroïque.
Nous apprenons qu'une dangereuse fugitive a échappé à la vigilance du gouvernement. Une chasse à la femme est organisée et nous vous demandons de rester sur vos gardes. La fugitive serait armée. D'après notre correspondante, elle ferait partie d'un groupuscule terroriste voulant s'en prendre aux réserves de sperme du gouvernement. Je donne la parole à notre gouvernante, Kim.
Sœur, compatriote.
Mes chers alliés, bonjour.
Est-il besoin de rappeler que depuis la disparition des hommes, dont le surplus d'ego aura accéléré la chute, l'humanité perdure uniquement grâce au respect strict du nouvel ordre établi. Nous avons surmonté plus d'une période de crise grâce à notre mot d'ordre sororité.
Voilà, contrairement à ce que pouvaient penser les porteurs du chromosome Y, eh bien non, l'espèce, l'humanité n'est pas détruite au lendemain de leur disparition. Elle continue même d'exister grâce aux femmes. L'homosexualité comme nouvelle norme font partie des sujets évidemment abordés par cette série, mais également, comme on l'a entendu avec la bande-annonce, la PMA, la GPA, sujet ô combien d'actualité. Un monde sans hommes, c'est pour vous, Benoît, bien évidemment. Si vous étiez le dernier, nous serions ravis que vous nous représentiez aussi bien. Mais la série vaut-elle d'être regardée?
Alors, je trouve le point de départ plutôt amusante et intéressante. Pour une fois, voilà, il y a une idée originale comme ça. Ce qui, moi, me chagrine assez vite, c'est que... Alors, une idée intéressante, à un moment donné, il y a ces femmes qui vont dans un parc d'attractions Homeland. Bon, voilà, pour vous dire le niveau des blagounettes, parfois. C'est-à-dire que il y a plein d'idées, sauf que toutes ces idées tombent souvent un petit peu à plat. En fait, le problème de ces formats un petit peu très courts, c'est qu'il faut être hyper efficace tout de suite. Et ce que avait démontré SCAM auparavant sur Slash, ou la série de Sullivan Le Postec, Les Engagés, c'était qu'on avait des personnages tout de suite touchants, émouvants, qui nous embarquaient. Là, on prend un temps fou à les suivre, on finit par avoir plus rien à faire de ce qu'elles nous racontent, alors qu'il y avait une matière géniale, en fait. Tout ce qu'elles tentent, tout ce qu'elles proposent est intéressant. Sauf que c'est un petit peu rabougri, au final. Et c'est d'une lenteur, au fond. Donc, une belle idée, mais assez déçue par le résultat.
Alors, Marjolaine agite beaucoup la tête, donc elle semble vous donner raison. Mais maintenant, elle a le droit de s'exprimer, parce que c'est quand même une série consacrée aux femmes.
Oui, mais alors, je suis pas du tout d'accord quand vous avez dit dans le lancement que c'était 100% féministe. Pour moi, c'est vraiment très, très anti-féministe.
Ça se voudrait quand même.
Non. Non. Ces femmes qui passent leur temps à chercher le dernier homme, est-ce que c'est vraiment la fiction utile en 2019? Bon, voilà, je laisse la question en l'air. Et puis, effectivement, il y a un problème de traitement. La comédie, c'est extrêmement compliqué. La comédie dans des formats 15 minutes, etc., c'est encore plus difficile. Et comme trop souvent dans des comédies pas très bonnes, on confond bête et drôle. Et en fait, ces personnages, effectivement, on s'y attache pas parce qu'elles apparaissent toutes au départ, ben, un peu neuneux, un peu gnangnan. Voilà. Et moi, je ne suis pas du tout rentrée dans cette histoire dont je reconnais l'intérêt, le parti pris, etc. Pourquoi pas? Mais ça aurait demandé peut-être un peu plus de soin dans l'écriture.
Marie Sauvion.
Alors moi aussi, je prône la sororité, donc je suis bien embêtée parce qu'effectivement, cette série écrite par des femmes, interprétée par les autrices, etc., ça avait un petit peu tout pour me plaire. J'ai le même souci que vous sur le format, en fait, qui, comme le disait Benoît, implique une efficacité, et ça marche pas avec la dystopie, en fait, parce que la dystopie, ça nécessite d'instaurer un climat. Il faut installer un décor, il faut installer une époque, il faut installer une dictature fasciste, il s'agit pas de faire apparaître une femme à la télé de voilà 1 minute 30 pour dire ah bah on a bien compris qu'on vivait dans une dictature fasciste menée par une bonne femme hystéro. Donc mon souci c'est qu'en fait à vouloir ménager la chèvre et le chou, à vouloir marier la dystopie et la comédie, on part dans une direction pendant 1 minute 30, on en suit une autre, tout à coup on a une espèce de gag un peu bébête, parfois rigolo. Voilà, il y a plein de petites choses à glaner, voilà, comment on enlève les hommes d'une société, ben tout à coup vous marchez dans une rue ou vous roulez en voiture. Je dis au passage que ça se passe dans 120 ans mais qu'elle roule quand même dans des équivalents de Kangoo, c'est extrêmement décevant sur le futur, et que donc voilà, vous vous baladez dans la rue, les ouvriers sont des ouvrières, vous avez le droit de faire un enfant, ben vous allez à la banque du sperme, mais tout ça, on a envie que ce soit développé, on a envie qu'on nous raconte cette société. Moi, j'ai envie d'y vivre 1 heure et demie, le temps d'un film. Et voilà, ça fait ni un film avec des épisodes de 15 minutes mis bout à bout, ni une série dans laquelle on tremble, on se plonge, on s'intéresse aux personnages, etc. Donc c'est beaucoup de bonnes petites idées éparses. Et je me dis que quand on a le temps de s'embêter dans un épisode de 15 minutes, c'est qu'il y a vraiment un truc qui cloche. Par ailleurs, je me dis, ces filles-là en ont des idées, donnez-leur du temps, donnez-leur des sous, donnez-leur les moyens de faire le grand film dystopique, féministe qu'elles ont sous le talon.
Oui, les idées, c'est comme on l'entendait dans l'extrait, la chasse à la femme, par exemple, au terme de vocabulaire, il y a plein d'idées comme ça. Donc, tout, il y a des choses à sauver vraiment dans Zérostérone. Moi, je pense que...
Le titre, déjà, qui est excellent.
Oui, et je pense que même sans moyens, on peut écrire des choses extraordinaires et on peut aller vraiment au bout de ça.
Mais il faut choisir son camp.
Oui, et le souci...
En termes d'écriture de fiction.
Voilà, parce que, par exemple, dans le format court, ou quand on a un Alexandre Astier, quand il fait Kaamelott, il est tout le temps drôle. Là, de vouloir être drôle et émouvant, eh ben ça marche pas. Ça marche peut-être grâce à Anne Murphy dans The Politician, mais là ça ne marche pas.
Mais surtout sur 15 minutes
en fait. Oui, et quand les personnages vivent des choses dures, on aimerait, enfin moi j'ai été très embêté parce que j'aurais aimé être ému et touché par ces personnages-là, parce que ce qu'elles vivaient, ce qu'on leur faisait vivre, effectivement était touchant. Sauf qu'au final, ben non, ça glisse sur moi comme rien quoi.
C'est quand même une chaîne TV slash destinée aux jeunes, ça se regarde sur les portables, ils en discutent à la récréation. Est-ce qu'au moins on ne peut pas lui reconnaître, je ne veux pas défendre coûte que coûte d'Hérostérone, mais cette idée d'induire l'homosexualité comme une norme, il y a une discussion à un moment entre deux nanas qui disent, tu sais, les nanas, il faut les draguer comme ça et tout ça, la PMA, la GPA comme nouvelle normalité, on est au cœur de ce débat-là, au moins ça a la vertu de le mettre en avant. À défaut de le développer correctement.
Il aurait fallu le faire avec des personnages vraiment attachants et là, ça aurait eu un impact, comme Scam a un impact parce qu'ils ont construit des personnages qui existent et avec lesquels les jeunes, précisément, sont en vraie relation.
Il y a une vraie tentative avec le personnage donc, de Lucie, qui doit donc aller à sa journée, et il n'y en a qu'une, une journée. Hein. On vous donne la date et puis vous allez voir si vous êtes fertile, si on peut vous inséminer, vous avez bien pris votre température. Voilà.
Un peu comme le service militaire, on fait les 3 jours et après mais on en prend pour
c'est exactement ça. Et c'est présenté comme un devoir. Et il y a dans la série cette prise de conscience de cette jeune fille qui se demande si toute sa vie doit tourner autour de la maternité. Bah,
c'est
une question absolument passionnante, mais qui est traitée entre deux cascades, une évasion, 3 gags, un robot mec appelé Hervé, complètement crétin et irritant, etc. Et donc, à un moment, moi, j'aimerais que le 1 heure et demie sur la question de la maternité centrale, c'est pas de trop.
You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, without a woman or a girl. And a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. About a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness.
Vous l'avez aimé, donc vous allez avoir droit à nouveau à mon accent anglais. It's a man's, man's world de James Brown. Était-il besoin de le préciser ?
France Inter. Une heure en série.
Et pour ce troisième débat, nous allons le consacrer à une des séries les plus attendues de la rentrée. Enfin, je ne crois pas pouvoir dire le contraire. Les Sauvages sur Canal+, 6 épisodes. Et c'est en ligne depuis le 23 septembre.
Le mal est là, tapis en chacun de nous. Nous sommes capables du meilleur. Et nous sommes capables du pire.
Monsieur le Président de la République française.
Les plus civilisés des hommes, les plus parfaits sauvages.
Ah, ils sont présidents, ils sont docteurs maintenant. Tous cousins. Hein.
Eh ouais.
Chaouche, t'en penses quoi, Chaouche ?
J'ai pas voté pour lui, si c'est votre question. Évidemment, tu peux continuer à te mentir et à dire que tu vas devenir un grand pianiste comme les fils de bourgeois. Ou faire partie du showbiz comme ton cousin et devenir un bel arabe tout beau, tout plein.
On va aller à Saint-Étienne.
Cette image, c'est le début de ton mandat. Cette fois-ci, on a vraiment gagné.
Je suis pas un exemple.
On peut faire quelque chose, on doit faire quelque chose.
Moi, je préfère te dire la vérité. Je préfère te dire que tu vas pas y arriver.
Alors c'est ça, le pouvoir.
Et tu vas souffrir. 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 Et que c'est comme ça que tu vas te libérer.
Le premier président français, issu d'une ancienne colonie française, est victime d'un attentat le soir même de son élection. Petit souci, le coupable est un cousin de son gendre. Donc on a compris, on va mélanger à la fois la fiction politique et la saga familiale, adaptée donc des quatre tomes des romans éponymes de Sabri Louata, mis en scène par la très talentueuse Rebecca Zlotowski. Vous pouvez encore voir en salle Une fille facile avec Zaya Dehar. On a entendu quelques voix, effectivement, le casting, il est quand même luxueux. Roche Dizem, Dali Ben Salah, Amira Kazar, Marina Foïs, Ariane Ascaride, Ilyes Kadri, qui est un petit débutant mais fort prometteur, Sofiane Germani, qui vient du rap, Farida Rawaj. Libération, JDD, Télérama, Le Parisien et même Variety ont salué la série vraiment comme un événement. Mais évidemment, la sanction que l'on attend, c'est la vôtre. Tout le monde est suspendu à votre droit de parole et à votre opinion, Marjolaine.
Ah bah, Pour moi, c'est la série française la plus importante de 2019.
Très bien, on va gagner du temps. Voilà. Merci beaucoup, je suis d'accord.
Je peux développer. C'est Marie, effectivement, le thriller politique et le drame familial. Les premières minutes sont d'une efficacité redoutable. On parlait de comment on installe des personnages, une situation d'entrée, et là vraiment c'est extrêmement réussi.
Tout le premier épisode.
Les deux premiers épisodes sont haletants, à tel point que l'épisode 3 et 4, on les trouve un peu plus lents, alors que bon, voilà, ils se tiennent quand même, et ça reprend la tension vraiment dans l'épisode 5 et 6, c'est tout à fait remarquable, encore une fois, en termes d'écriture, d'interprétation, sur le fond maintenant, parce que c'est quand même ça qui est extrêmement important. Pour la première fois en France, on a un casting avec des minorités visibles, en l'occurrence des Algériens, en majorité, ce qui permet la représentation multiple et ce qui permet la nuance et ce qui permet, attention, je vais dire un gros mot, de parler d'intersectionnalité, c'est-à-dire comment le racisme ambiant de la société française s'implique différemment selon la classe à laquelle vous appartenez, que vous soyez riche ou pauvre, c'est pas la même chose, que vous soyez international comme la famille Chaouche qui vient des États-Unis, qui a fait beaucoup d'études, etc. Qui est la famille du président, ou pauvre et d'une ville de province.
Saint-Étienne, qui est la ville de naissance de Sabri Louata.
Comme la famille Nérouche. Et au-delà de tout ça, il y a, et évidemment que vous soyez hétérosexuel ou homosexuel, parce que la question est également abordée dans la série et c'est très fin, tout ça sur fond de musique classique et de légitimation culturelle. Il y a une scène déchirante qui se passe dans les locaux de Radio France. Et ce générique des Indes Galantes, donc de sa quatrième entrée, Les Sauvages, qui donne évidemment tout son sens à la série et à cette place que la société française ne fait pas à ses citoyens d'origine algérienne.
Je suis totalement d'accord avec vous, Benoît.
Alors oui, c'est une très belle description d'une communauté plurielle, fine, ce qu'on avait peu vu dans une série. Marjolaine, vous parlez des Sauvages, du classique. Moi, je dirais aussi la chanson de Bernard Lavilliers. On n'est pas d'un pays, on est d'une ville, sur Saint-Étienne, qui prend la place à un moment donné dans le troisième épisode du générique, qui m'a foutu les frissons, parce que aussi on montre la classe ouvrière, on montre tout un monde qu'on montre peu aussi, même si on le voit parfois ici ou là. C'est très bien fait. Moi, le bémol, peut-être, c'est que c'est trop plein. C'est-à-dire qu'en 6 épisodes, il y a beaucoup trop de choses. C'est-à-dire que là, ils tenaient leur sujet de ce que j'appellerais the Wire Wing, the West Wire Wing. C'est-à-dire qu'à la fois un peu the Wire, à la fois complètement the West Wing. Et sauf que ils nous en font un 24 heures chrono, efficace, beaucoup plus fort d'ailleurs qu'un 24 heures chrono. C'est passionnant à suivre. On essaie temps que, comme Marjolaine l'a dit, mais voilà, à un moment donné, on a juste envie de dire « Eh les Français, là vous tenez un vrai sujet, vous tenez un super casting, une très belle écriture, allez-y, prenez votre temps, racontez, rentrons dans le détail de ces personnages, ils vivent immédiatement, alors on a envie de les suivre plus longtemps, et je trouve que ça c'est la frilosité de beaucoup de séries françaises qui du coup se cantonnent à la mini-série alors qu'ils ont de quoi faire une grande saga. »
Il n'est pas dit qu'il n'y ait pas de saison 2 d'ailleurs. Marie,
c'est vrai.
Il y a écrit fin à la fin. Hein.
Mais je suis d'accord avec Benoît, j'aurais bien vu 8 épisodes ou 10 épisodes, j'aurais bien passé un peu plus de temps avec le président, notamment avec Rushdie Obama qui est vraiment extraordinaire dans le film et assez taiseux finalement, assez mystérieux, c'est-à-dire qu'il en est à la fois la figure centrale et pas complètement le héros. Et moi ça m'a un peu manqué parce que voilà, c'est un professeur d'économie, il a enseigné à Harvard, un type vraiment cultivé, marié à une chef d'orchestre, sa fille est sa directrice de campagne, enfin là on est vraiment chez la bourgeoisie d'origine algérienne. Comme le disait Marjolaine, c'est assez passionnant de passer ensuite chez les prolos de Saint-Étienne, qui sont très éclatés. Moi, je voudrais souligner la mise en scène de Rebecca Zlotowski.
Merci.
Parce qu'elle a le chic pour être tout le temps où il faut. Elle est hyper mobile, on est au cœur des événements, notamment dans les scènes de foule, les scènes de groupe, il y a un mariage kabyle qui est absolument formidable, mais les scènes au QG, toutes les scènes comme ça, un peu vibrantes, un peu politiques, un peu d'excitation, on les vit parfaitement, et en même temps, elle sait scruter un visage, elle sait raconter une intimité, un déchirement. La réalisation est formidable. On a parlé de la musique. Effectivement, Rameau, Vivaldi, Berlioz,
Lavilliers
et une Marseillaise dans un stade qui vous colle le frisson, qui vous met les larmes aux yeux, qui vous donne envie que cette histoire soit non pas une dystopie mais une utopie, qui vous dit mais peut-être que voilà, on peut y arriver, on va essayer. Moi je trouve que politiquement c'est absolument passionnant. C'est rare que la France s'intéresse à son passé colonial. C'est rare que la France pose dans une fiction le problème des racines du mal.
et les regarde en face. Et ce personnage le permet, ce personnage d'Hider Chaouch, donc joué par Roche Dizem. Il y a quelques trous dans le scénario, ça va un peu trop vite. Il y a un maton un peu à la solde des islamistes, qui est un peu un cliché de série américaine. Il y a une jeune mariée qui est là pendant un mariage, mais qui a disparu les jours suivants. Enfin voilà, il y a deux, trois arrangements comme ça. Moi, j'espère vraiment qu'il y aura une deuxième saison, qui se posera un peu. J'espère que Hider Chaouch sera notre Bartlett, notre président Bartlett.
Alors, il reste du matériel à la fois dans les romans, tous n'ont pas été adaptés dans cette série, mais pourquoi pas, puisque Rebecca Zlotowski et Sabri Louata ont travaillé ensemble, qu'ils inventent peut-être une suite. En tout cas, je crois qu'on est tous demandeurs, et à juste titre, un peu de musique.
Jack Hennessy, c'est fini, y'a plus d'usine. On fête la New Genesis, y'a différentes énergies. On va tourner le nouveau film, comprendre même la poésie. Vous nous avez pas changé, abandonné mes six livres. Ouais, sous y'a les roues, aïe. Du coup ça roule, aïe. Ça roule des méga tagas, des trucs de zboul, aïe. Plus tard je veux être astronaute, c'est dit dans le Touran, aïe. Pas de soucis pour la photo, même assise du sbar. J'ai bien dormi avec ses jambes sur mon corps bousillé. Un genre comme un mortel devant 10 000, j'fais un sourire, yes, yes, yes. Ah, ah. J'ai bien dormi avec ses jambes sur mon corps bousillé. Un genre comme un mortel devant 10 000, j'fais un sourire, yes. Un jeune matelot à 20 000, j'kiffe ma vie, mais je l'avais mis. J'kiffe ma vie, mais je l'avais mis. Hey, hey, tu peux m'aimer tant que j'suis pas trop moi. C'est ça au moins, pas trop se mouiller mais on s'arrose. Bonjour maman, tiens la siroc, hey. Je suis une rockstar, pas besoin de dire quoi. Je suis tout là-bas, dis-moi t'es où toi. Tout ça mais le barreau, j'allume des garros, rien qu'une seule parole. C'est une le camion collier de fleurs. Le long du salon, je me jette dans le fleuve. Enlève tes talons, t'es là, tu pleures. Dans le fond du salon, t'es là, tu pleures. C'est une le salaud, tu restes qu'un crapaud. Après un bisou, hey. Je me suis fait duper parce que je suis pas là. Tu t'es fait tout seul, hey. J'ai bien dormi avec ses jambes sur mon corps bousillé. Un jeune comme un mortel devant 10 000. J'fais un sourire, yes. Un jeune matelot à 20 000. J'kiffe ma vie, mais je l'avais mieux. J'kiffe ma vie, mais je l'avais mieux. Sur le terrain de chasse, j'ai les bottes, j'ai le cabaret. Tous mes uns sont là, ils sont bien, ils sont à l'abri. C'est le bon chemin, souviens-toi, y'a les palaris. Et le vent souffla, et le vent souffla. Sur le terrain de chasse, j'ai les bottes, j'ai le cabaret. Tous mes uns sont là, ils sont bien, ils sont à l'abri. C'est le bon chemin, souviens-toi, y'a les palaris. Et le vent souffla, et le vent souffla. Mortel, j'suis au motel, j'vais pas tarder à me teindre. J'ai les yeux en feu, ils me font le procès, ils sont les dieux. Y'a plus de gros jet, bientôt de l'eau de Javel, hey. Pour nettoyer ma carcasse, ouais ma pauvre tête. C'était bien fondu bar à vouloir baiser Cendrillon. Dernière veste, dernière magouille, commenter avec mes millions. Qu'on disparaisse mal en main, grand vautour et papillon. J'serai un dieu si on se bat ensemble, elle bougera pas ma vision. J'rentre des codes, j'fais ma
Papillon de Zed Youn Pavarotti, oui, il faut quand même le, faut le trouver, c'était une nouveauté. Un jeune artiste stéphanois de 22 ans, voilà, issu de Saint-Etienne, c'est pour ça que on trouvait
qu'il avait un petit rapport. Il va chanter avec Céline
Dion? Plutôt, pardon.
Il va chanter avec Céline Dion?
Je ne sais pas.
Ou Pavarotti? Non, mais juste.
Ah là là, bravo Benoît! Applaudissements général. Non. Et cet extrait de son album French Cash, je ne sais pas pourquoi, je crois que je vais l'offrir à Marie Sauvion.
France Inter. Une heure en série.
Alors oui, exceptionnellement, pour une fois, nous allons déroger à la règle et nous n'allons pas parler de série, mais d'un film sorti mercredi sur les écrans, Downton Abbey. Évidemment, c'est un rapport immédiat et direct avec la célèbre série triomphale 6 saisons. Je crois que le monde entier a regardé Downton Abbey, même sur la Lune, ils l'ont reçu en DVD. Donc c'est vraiment un film Michael Engler à la réalisation, enfin si on peut parler de réalisation, c'est en tout cas un carton absolu, puisqu'aux USA, le film a dépassé en première semaine le film de James Gray, Ad Astra, 31 millions pour Downton Abbey, 19 millions pour le film de James Gray, ce qui me semble un petit peu scandaleux,
désespérant,
hein, pour le dire, voilà. Alors, ce film, Downton Abbey, on va en parler dans quelques instants, vous répondrez à la question, est-ce que c'est une conclusion de la série, ou est-ce qu'au contraire, vu les chiffres qui accompagnent la sortie de ce film, l'annonce peut-être d'une relance de Downton Abbey sur nos petits écrans? Allez, le pitch, il tient sur un demi-ticket de métro, c'est le branle-bas de combat à Downton Abbey, les maîtres comme les valets sont aux abois puisque la reine d'Angleterre a annoncé qu'elle viendrait passer une nuit. Est-ce que ça suffit à faire un film ou pas? Je crois que tout le monde a deviné mon opinion, mais néanmoins, écoutons quelques instants la bande-annonce.
Resterez-vous pour le dîner, maman? C'est un buffet.
Mais je ne me suis pas changée.
Il suffira d'ôter votre chapeau.
À t'entendre, on pourrait croire que c'est facile.
Seigneur.
De quoi s'agit-il?
Le roi et la reine vont séjourner ici.
Pardon? Nous y voilà.
Je suis le majordome du roi. Nous venons à Downton avant l'arrivée de leur majesté.
Le majordome du roi est vraiment effrayant.
Oh!
Laissez-nous faire.
Je suis le chef de leur majesté. Je veux l'huile d'olive, maintenant.
Il veut une bonne paire de claques, maintenant.
J'ai besoin de vous, Carson.
Je serai là demain matin, madame.
Puis-je vous aider?
Je suis au service de Lady Bagshaw.
Je dois le reconnaître, elle me plaît.
C'est une intrigante petite effrontée. Vous proférez des sornettes.
Oh!
Il est inutile de vous quereller.
Je ne cherche pas querelle, j'explique.
Alors, on est dans des chaussons quand même. Hein. La musique à la Richard Clayderman, les répliques fielleuses entièrement accordées à Maggie Smith, qui visiblement a réussi dans son contrat à ce qu'elle soit les seules à pouvoir avoir ce genre de saillie. Les autres ont quand même des dialogues nettement plus fades. La grande question qui se pose, c'est est-ce que d'abord les néophytes qui n'ont pas regardé les six saisons, je crois qu'il en existe encore quelques-unes et quelques-uns de par le monde, peuvent aller voir Downton Abbey? Et est-ce qu'on avait vraiment besoin de conclure ou pas cette série géniale qu'on a tellement aimée par ce film un peu fade? Marie?
Alors, ça fait beaucoup de questions en une, d'abord. Alors, non. Voilà, la réponse est non. Voilà, je l'ai dit. C'est, en fait, c'est quelque chose qu'il va falloir attendre de regarder tranquillou à la télé. Parce que, on veut quoi? On veut un plaid, on veut un Earl Grey, on veut des scones, on veut retrouver nos copains. Ça ne mérite pas plus. C'est-à-dire, ça ne mérite pas de sortir de chez soi. C'est ça que je voudrais dire. Et que, par ailleurs, eh ben moi j'ai éprouvé une joie malsaine à les retrouver tous, même avec un mauvais scénario, même avec une mise en scène hyper tapageuse, parce que c'est le luxe qui est tapageur. Et vas-y que je t'envoie des drones, et vas-y que je me régale dans les couloirs, les cuisines, les machins.
Et à mon avis, ça, il vide la centrale électrique d'à côté pour pouvoir éclairer le château.
Non mais voilà, là il y a beaucoup de sous et un scénario effectivement tout mince. Le souci c'est qu'ils ont voulu faire exister tous les personnages sur 2 heures. Ils ont voulu que ce soit compréhensible pour les gens qui avaient jamais vu la série. Moyennant quoi, il faut à la fois résumer un peu qui ils sont, mais en même temps pas trop pour pas perdre ceux qui connaissent, voilà. Et c'est quand même l'histoire de quoi? Ben c'est l'histoire d'une visite royale où l'on découvre, quelle surprise, que le majordome du roi est plus snob que le roi, que les domestiques des Crowley sont plus snobs que les Crowley, et que tout ça va évidemment se crêper le chignon, s'enfermer à double tour dans des chambres et piquer des crises nerveuses parce qu'on veut leur prendre leur place derrière les fourneaux. C'est quand même des enjeux assez minables au regard de ce qu'est la série, qui raconte vraiment tout un pan d'histoire d'Angleterre. C'est une série sur l'émancipation des femmes, c'est une série sur la fin d'un monde. Je rappelle que la série démarrait avec le naufrage du Titanic. C'est peut-être pas innocent qu'au moment du Brexit, ils se raccrochent un dernier coup à Downton Abbey en se disant peut-être que c'est leur idée de la permanence d'une certaine Angleterre et qu'il leur reste que ça, des châteaux, des maîtres, des serviteurs. Moi, je souhaite vraiment leur retour, mais avec un scénario digne de ce nom.
Alors, vu les chiffres, c'est pratiquement sûr, il y aura ou une nouvelle série ou un nouveau film. Marjolaine.
Oui, alors moi effectivement ce film-là m'a beaucoup gênée dans son scénario et le sous-texte politique du scénario justement où on voit des valets qui se battent littéralement pour travailler, pour servir le roi, tandis que cette pauvre Edith, qui décidément, même si elle est beaucoup plus dénudée dans le film que dans la série, n'est pas bien servie, et dit à quel point c'est dur la vie d'aristocrate, où on est obligé d'aller dans des dîners, boire du champagne avec la famille royale. Moi, j'ai trouvé ce décalage, justement, entre ce luxe, cette vision totalement fantasmée de ce qu'est la Grande-Bretagne ou de ce qu'a été l'histoire de la Grande-Bretagne, très gênant à l'heure du Brexit et très gênant pour, justement, la situation des vallées et de petites gens et la représentation du travail de servir les puissants comme un honneur et un privilège.
Gauchiste.
Benoît, très vite.
Moi, j'ai aimé retrouver ce que disait Marie au tout début. J'ai aimé les retrouver tous. J'ai aimé aller au cinéma, les voir, même si, je suis d'accord avec vous, c'est comme un des téléfilm un peu moyen entre deux saisons.
C'est un gros épisode de Noël.
Voilà, un gros épisode de Noël, voilà. Mais j'ai pris vraiment plaisir. Et je pense que, comme j'ai pris plaisir à aller au vrai château de Downton Abbey, être dans le château, rentrer dans la chambre de Lady Mary. Enfin,
t'es un fanatique, en fait.
Oui, oui, oui.
Et ça s'appelle du fétichisme.
Non. ce que je veux dire, c'est que...
Vous avez touché les pantoufles, c'est passionnant, c'est ça?
Mais c'est passionnant pour ça. Ça touche du doigt, au-delà de ce qu'on peut dire sur le scénario, sur ce que ça dit de l'Angleterre. On peut bavarder, nous, autour de cette table, autour de ça. Ça n'enlèvera pas le fait que Downton Abbey, c'est d'abord et avant tout une série de plaisir de spectateurs, téléspectateurs, avec des personnages, avec un monde, avec un univers. Et on prend un grand plaisir. Moi, je suis sorti de là avec la banane.
Mais c'est un plaisir de feuilleton.
Oui, oui,
de vrai feuilleton,
bien sûr,
quoi, à l'ancienne. Et c'est ça qu'on retrouve pas dans le film.
Non, mais c'est pour ça que je rejoins la question de qu'est-ce que ça va donner derrière. Ça va donner derrière, j'espère, une nouvelle série et qu'on considérera à terme ce film comme un épisode de la série, point. C'est bien comme un épisode de la série. Si on le regarde comme un film de cinéma, c'est autre chose, mais c'est pas mon job, moi je regarde des séries. Donc, je suis allé voir ce film en venant voir l'épisode final de la saison de Downton Abbey que je n'avais pas vraiment eu. Et du coup, j'étais content de voir cet épisode final qui peut-être me laissait espérer 6 succès, une suite, et là je suis tout content, quoi.
Mais
parce que j'ai hâte de ça.
La grande différence, c'est que quand vous regardez une série télé, c'est gratuit à la télévision. Ou sauf que évidemment,
enfin, c'est de moins en moins gratuit la télé.
C'est de moins en moins gratuit, nous sommes d'accord. Là, on va quand même débourser 10
oui,
euros pour voir cet épisode un peu inédit.
Oui, mais
vous n'avez plus la parole, c'est moi qui conclu.
Et non, mais
j'ai fait croire que c'est une émission démocratique, elle est totalement autocrate. Voilà. Et maintenant, mon conseil littéraire, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez aller jouer dehors pendant que je l'annonce.
Je m'en vais.
Si vous aimez Downton Abbey, je vous recommande la lecture de L'héritage Dave Knoll de Robert Goddard aux éditions Sonatine. Nous sommes en pleine Angleterre victorienne au 19e siècle. La bonne société londonienne et ses mœurs impeccables ou prétendues telles sont ébranlées par le retour de l'héritier d'une famille noble que l'on croyait disparu et mort depuis 10 ans. Évidemment, sa famille ne veut pas entendre parler de ce jeune homme, surtout celui qui a pris sa place quand même dans la lignée des baronnets de la famille. Il n'y a qu'une seule personne qui le reconnaît, sa fiancée qu'il avait pourtant larguée 3 jours avant le mariage. Une saga de 700 pages comme on les aime. Ça, c'est du Downton Abbey aussi, avec à la fois ce qu'on aime, c'est-à-dire les vernis de la bonne société anglaise qui vont se fissurer, bien évidemment, au fur et à mesure que les secrets d'alcôve, et ils sont nombreux, vont se révéler, avec un vrai souffle littéraire comme on aime. Alors, c'est un peu à l'ancienne, et pourtant, c'est un auteur totalement contemporain. Je vous rappelle le titre, donc, de ce livre, L'héritage Dave Knoll, de Robert Goddard, et c'est aussi l'édition Sonatine, 700 pages idéales pour les longues soirées d'hiver, avec le plaid et le thé Earl Grey de Marie.
Oh, je peux revenir quand même?
Non!
Mais oui, bien sûr, cher Benoît, que vous pouvez revenir. Mais je ne vous donne pas la parole pour l'instant, puisque c'est l'heure du plateau télé. À part les séries et le film que nous vous avons plus ou moins recommandé cette semaine, qu'est-ce qu'on peut regarder à la télévision? Et Marjolaine, vous avez une idée particulièrement, j'allais dire, pertinente au vu de cette programmation, puisque vous nous proposez de voir une autre série, justement, consacrée à la lutte des classes dans la bourgeoisie et dans la noblesse anglaise.
Upstairs, Downstairs, le remake de 2010 qui est en ce moment diffusé sur Chérie 25 et qui est la série qui a été tuée par Downton Abbey.
Absolument.
Parce qu'en 2010, ITV a dégainé Downton Abbey, succès immédiat pour les qualités de réalisation, d'interprétation et de narration dont on a déjà parlé. Néanmoins, Upstairs, Downstairs, donc qui est la
Maîtres
suite,
et Valets en français,
Maîtres et Valets en français, qui est la suite d'une série mythique pour les Britanniques des années 70, qui nous a emmenés justement dans ces grandes demeures de l'aristocratie, à la fois avec les riches et les puissants, mais aussi avec ceux qui les servent. C'est une série de la BBC beaucoup plus à gauche, beaucoup plus fine à mon sens dans sa représentation de l'histoire de la Grande-Bretagne. Et cette série donc diffusée en ce moment sur Chérie 25 nous plonge dans la Grande-Bretagne juste avant la Seconde Guerre mondiale, nous montre des aristocrates fascinés par le nazisme, et c'est vraiment tout à fait remarquable, et ça, toute cette histoire que n'a pas Downton Abbey, et il y a aussi Claire Foy pour les amateurs de The Crown, donc c'est une très bonne façon d'attendre la suite de Downton Abbey, la série qui va nous plonger dans un autre moment, et de retrouver des acteurs quand même tout à fait formidables.
C'est vrai que c'était un échec totalement injustifié, Maître des Vallées, Upstairs, Downstairs,
sur Chérie 25.
Chérie 25. Marie, Unbelievable, la série événement de Netflix, à juste titre il faut le dire, mais je vous laisse le soin de la défendre.
Unbelievable, ça veut dire incroyable. Alors ce qui est incroyable, c'est la manière dont est menée l'enquête policière au départ dans cette série. C'est une série criminelle. Hein. L'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Marie, qui a 18 ans et qui est attaquée de nuit chez elle, ligotée, violée par un homme masqué. Et elle raconte ça à la police une première fois, et puis on lui demande de raconter son histoire une deuxième fois, puis une troisième fois, et puis à l'hôpital, les pireux à la police, etc. Et les policiers trouvent qu'elle réagit pas vraiment comme elle devrait réagir, parce qu'ils ont l'idée préconçue de la réaction d'une victime de viol. Et donc, ils vont décider qu'elle est unbelievable, incroyable. Et ce qui est incroyable aussi, c'est cette série, qui est une série absolument poignante, qui pour une fois regarde le crime du côté de la victime et du côté des femmes. C'est-à-dire qu'au lieu de se repaître des aventures de serial violeurs, de serial killers et de serial tout ce qu'on veut, au lieu de trembler de cette voilà ce truc un peu malsain là, de est-ce qu'on va retrouver la fille attachée dans une cave en petite tenue, et ben là on vit au quotidien ce que c'est que d'être une victime de viol mal interrogée par des mauvais policiers pas formés. Et puis tout à coup surgissent deux enquêtrices extraordinaire, alors qui sont joués par Toni Collette, que tout le monde connaît, l'actrice australienne géniale, et Merritt Weaver, que vous avez vu dans Nurse Jackie, qui est extraordinaire. Et alors ces deux femmes-là, elles sont chacune sur des enquêtes de serial violeurs, et alors on voit comment elles interrogent les victimes, avec empathie, avec tact, avec beaucoup d'intelligence. Elles savent qu'il n'y a pas deux femmes qui réagissent de la même façon. Il y en a qui sont bravaches, il y en a qui sont effondrées. Et puis c'est elles qui, patiemment, vont les écouter, les mettre en confiance, et puis faire le lien entre un crime, puis un autre, etc. Et donc c'est une vraie série policière, une vraie enquête qui va vous tenir en haleine, avec un fond d'une intelligence féministe absolument bouleversante. C'est formidable, Unbelievable sur Netflix.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Benoît, évidemment que vous avez le droit de reprendre la parole, et vous allez défendre une série apocalyptique.
The Odd Zone, qui est diffusée sur la chaîne National Geographic, alors qui raconte, comme souvent sur National Geographic, de façon un petit peu pédago, hein, c'est autour du virus d'Ebola. Donc en 89, découverte autour du virus d'Ebola. C'est une série, moi, la porte d'entrée, pour moi, elle était simple, elle était par le casting. Juliana Margulies, qu'on avait vu dans Urgence, qu'on a vu dans The Good Wife, qui joue le rôle, là, d'une scientifique qui va être en charge d'enquêter autour de ce virus, parce que, voilà, des chimpanzés meurent en Virginie et que il se pourrait que le virus soit là. Toute l'équipe travaille scientifiquement. Eh, ça peut pas arriver, Ebola, aux États-Unis, ça ne peut être qu'en Afrique. Sauf que, non. Et toute la tension du thriller est là. C'est assez passionnant à suivre dans le cadre de vraiment du thriller. On apprend quand même pas mal de choses. On peut fermer les yeux par moment parce que c'est quand même assez gore dans la façon dont on montre comment le virus peut toucher l'humain et les réactions sur le corps humain. Donc ça, c'est assez sombre. Mais c'est assez intéressant. Et puis, pour le plaisir du sériephile, ça nous permet d'y retrouver des comédiens comme Noah Emmerich qu'on a vu dans The Americans, avec Juliana Margulies forcément qu'on a vu dans Urgence et qu'on revoit là avec une tenue de médecin. Et puis on voit même Robert Sean Leonard qu'on avait vu dans Doctor House qui se retrouve là aussi au détour de quelques épisodes. Finalement, un petit plaisir de sériephile pour une série qui nous raconte une histoire qu'on n'a peut-être pas envie de voir mais qui est vraiment pas inintéressante.
Merci beaucoup pour ces conseils que vous retrouverez bien évidemment sur la page web de notre émission. Je vais vous remercier chroniqueurs et chroniqueuses Marie, Marjolaine et Benoît d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, parlons de Criminal, une autre série de Netflix qui se passe dans 4 pays européens. Nous parlerons également de la 9e saison d'American Horror Story écrite par le très prolixe Ryan Murphy, dont nous parlions tout à l'heure, et qui se déroule cette fois en 1984. Ce sera sur Canal+, et nous parlerons du nouveau polar saga de TF1 pour Sarah. Cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur le site internet. Envoyez-nous vos impressions, évidemment, par courrier. L'émission était réalisée par Marie-Annick Rimbaud. Programmation musicale, signé Muriel Pérez, préparé avec Amel Kadhi, et à la technique ce soir, il y avait Pierre-Yves Derolin.